RFI, midi et demi en temps universel, il est 13h30 à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. Le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue ghanéen John Dramani Mahama appellent le Mali, le Burkina et le Niger à revenir dans la CEDEAO. Le président ghanéen se propose pour être médiateur avec l'Alliance des États du Sahel. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila n'est pas au pays, mais ça ne l'empêche pas de se faire remarquer. Après deux prises de parole depuis 10 jours dans la presse internationale, l'ancien président lance la restructuration de son parti, le PPRD. On en parlera avec l'analyste Trésor Kibangula, qui est notre invité. Et puis 52 éditeurs jeunesse venus de 16 pays d'Afrique ont rendez-vous à partir d'aujourd'hui à Lomé, au Togo, premier FEJA, Forum des éditeurs jeunesse d'Afrique. Un secteur en plein boom, mais encore fragile. L'optimisme affiché de la Côte d'Ivoire et du Ghana pour un retour du Mali, du Burkina et du Niger au sein de la CEDEAO. Hier, depuis Abidjan, les présidents Alassane Ouattara et John Dramani Mahama ont lancé un appel aux États de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, pour qu'ils réintègrent l'instance sous-régionale. Les trois pays disent et répètent qu'ils ne veulent pas revenir. Mais le chef d'État ivoirien compte visiblement sur son homologue ghanéen pour les convaincre et engager un nouveau processus, Guillaume Thibault.
Nous vous faisons confiance, monsieur le président, a lancé Alassane Ouattara ce mercredi. Visiblement convaincu par la diplomatie mise en place par John Dramani Mahama depuis sa réélection. Le chef de l'État ghanéen, qui a pointé les limites des méthodes de la CEDEAO, notamment l'application des sanctions économiques, joue, depuis son retour au pouvoir, la carte des relations respectueuses et apaisées. En invitant notamment à Migoïta, Abdourahmane Tchiani et Ibrahim Traoré à son investiture le 7 janvier. Les deux premiers se sont fait représenter. Le voisin burkinabé a lui été reçu en audience par John Dramani Mahama qui a déclaré « La colonisation nous a divisés, sinon nous ne serions qu'un seul peuple ». Nous sommes au début d'une nouvelle relation, nous devons tout faire pour l'intégration. Dans la foulée, le chef de l'État a nommé un envoyé spécial chargé des relations avec l'AES. Début février, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Samuel Akudzeto Ablakwa, a déclaré « Le président Mahama mène la charge pour garantir que le Mali, le Niger et le Burkina Faso reviennent dans le giron de la CEDEAO. Je ne doute pas que, compte tenu de son expérience diplomatique, il réussira ». Le ministre qui a aussi précisé que des visites diplomatiques de John Dramani Mahama sont prévues au sein des pays de l'AES dans les prochaines semaines.
Un témoignage rare à présent, celui d'un proche d'un commerçant malien porté disparu depuis son interpellation il y a 3 mois par les forces de sécurité et leurs supplétifs russes. De nombreuses interpellations ont lieu au Mali dans le cadre d'opérations antiterroristes. Des personnes emmenées dont les familles restent sans nouvelles parfois pendant des semaines ou des mois. Les familles, craignant d'aggraver la situation ou d'être elles-mêmes prises pour cible, évitent généralement de témoigner publiquement. Mais pas cette fois-ci. Les proches de Ladji Tambadou, 28 ans, commerçant malien résidant habituellement au Gabon, s'inquiètent depuis 3 mois. Et ils le font savoir, David Baché.
Le 8 décembre dernier, de passage pour les vacances dans le village familial de Diangounte Camara, région de Kaï, Ladji Tambadou se rend à un baptême. Sur le chemin du retour, à moto, route de Diéma, il croise une patrouille militaire. La suite, c'est son cousin Mamoudou Sissé qui la raconte.
Il était environ 17h, c'est là où il a croisé les patrouilles de l'armée malienne et ses supplétifs du groupe Wagner. Mais malheureusement, il n'avait pas ses pièces sur lui et ils l'ont embarqué. Quand on est resté jusqu'à un petit peu tard qu'on l'a pas vu, on s'est rapproché du commissariat de Djema et là ils nous ont informé qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient été interpellées et qu'ils ont tous été acheminés vers Bamako.
La famille entame alors une série de démarches pour clarifier la situation et faire libérer Ladji Tambadou.
Son frère est parti au commissariat de Djema avec sa pièce d'identité, son passeport, son billet d'avion, sa carte de résident du Gabon, puisqu'il réside au Gabon. Le lendemain matin, il est reparti à Bamako. Il s'est rendu au camp militaire de Kati, au camp numéro 1 à Bamako, au MCA, maison centrale d'arrêt. Tous ces lieux, on lui a dit qu'il n'y était pas. Là, ça fait plus de 3 mois que nous, la famille, on attend. Bon, même s'il est interpellé, qu'ils sont en train de mener des enquêtes, tout ce qu'on veut, c'est de le voir au moins, savoir qu'il est en vie. Mais là, on n'a aucune nouvelle, on ne le voit pas, on ne peut pas le contacter, ni sa mère, personne. pas d'avocat, rien du tout.
Aucune procédure judiciaire n'a été ouverte contre l'adjitant Badou, détenu dans un lieu inconnu depuis plus de 3 mois. Ses proches prient chaque jour pour le retrouver au plus vite, sain et sauf.
Dans sa lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le Bénin renforce ses partenariats sécuritaires. Le pays réceptionne ce jeudi un avion destiné à améliorer la reconnaissance et le renseignement. Jean-Luc Aplogan.
L'avion est offert par l'Union européenne et sera remis aux forces armées béninoises sur la base aérienne à Cotonou. Il s'agit d'un avion de reconnaissance et de surveillance qui servira pour l'opération Mirador. Le chef d'état-major de l'Union européenne, le général Michel Van der Laan, est annoncé à Cotonou pour l'occasion. Une semaine avant l'Union européenne, les forces armées béninoises ont conclu un programme de coopération avec les États-Unis, qualifié par un haut gradé béninois de partenaire solide et majeur. Par le passé, les USA ont donné des véhicules blindés, du matériel de communication, des équipements individuels et interviennent pour soigner et évacuer les soldats blessés sur le front. Le programme conclu le 27 février dernier a retenu 5 axes, la sécurité intérieure, le renseignement, la santé, la logistique et la lutte contre le terrorisme. L'ambition des forces de défense et de sécurité d'ici à 2030 est entre autres de monter en puissance dans l'aviation, le renseignement et créer des forces spéciales. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
L'actualité politique en République démocratique du Congo. Joseph Kabila lance la restructuration de son parti, le PPRD. L'ancien président congolais qui n'est pas au pays a fait réunir le bureau politique il y a 2 jours. Sous les auspices d'Aubin Minaku, qui a été désigné vice-président, Patient Ligodi, des décisions ont été prises pour relancer les activités du parti.
La première décision annoncée concerne la création d'une cellule d'analyse et de prospective. Cet organe sera rattaché au bureau politique et au secrétariat permanent du parti. Nous devons être en mesure d'évaluer toutes les hypothèses possibles concernant la marche du pays, a déclaré à RFI Aubin Minaku. Ce sera selon lui une sorte de laboratoire d'idées. Cette cellule qualifiée de stratégique devra être mise en place d'ici à 10 jours avec la désignation de ses animateurs dans le même délai. D'autres nominations sont attendues, notamment pour 4 des 6 postes de secrétaire permanent adjoint actuellement vacants. Des changements sont également prévus au niveau provincial dans l'optique d'une réorganisation du parti en profondeur. Cette restructuration vise aussi les élections générales de 2028. Aubin Minaku explique que le parti se considère comme étant dans la résistance face à ce qu'il qualifie des dictatures. Pour porter ce nouvel élan, la cellule de communication du parti sera aussi réorganisée et professionnalisée avec une présence renforcée à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Pendant ces temps, Joseph Kabila est toujours absent du pays. Pourquoi et où est-il? Aubin Minaku répond: il est à l'étranger pour son projet doctoral, mais aussi pour des raisons sécuritaires. Avant son départ, il faisait face, dit-il, à un harcèlement politique, à des menaces sur sa personne. Un retour en RDC, oui, mais pas sans garantie de sécurité, martèle Aubin Minaku.
Quelles sont les ambitions de Joseph Kabila dans la deuxième partie d'Afrique Midi? On appelle Trésor Kibangula, analyste à Ebouteli. Il est notre invité. Les responsables religieux de la SENCO et de l'ECC, l'Église du Christ au Congo, poursuivent pendant ce temps leur consultation pour tenter de trouver une issue au conflit dans l'Est. Mardi, ils étaient en Ouganda pour un échange avec le président Yoweri Museveni. Ils ont aussi rencontré sur place l'ancien chef de guerre Thomas Lubanga, condamné en 2012 pour crime de guerre par la CPI, puis libéré en 2020. Il est aujourd'hui accusé par l'ONU de collaborer avec la FCM23, Florence Maurice.
La rencontre s'est tenue à Kampala, où vit Thomas Lubanga depuis juillet dernier selon l'ONU. L'échange a été bref, il n'était pas seul, mais entouré d'une série de personnalités exilées d'Ituri, y compris des notables et anciens députés, aujourd'hui en conflit avec les autorités militaires de la province. L'objectif des responsables religieux, rallier Thomas Lubanga à leur initiative, baptisée Pacte social pour la paix, et éviter que l'ancien chef rebelle ne s'implique militairement dans le conflit en cours, alors que les accusations contre lui se multiplient. La semaine dernière, les autorités militaires à Bounia l'ont accusé d'être en train de former une nouvelle rébellion alliée au M23. Selon nos informations, Thomas Lubanga dément avoir repris les armes, mais ne cache pas l'ampleur de ses griefs vis-à-vis du pouvoir en place. En janvier déjà, le groupe d'experts des Nations Unies l'avait accusé d'avoir joué un rôle clé dans le rapprochement entre le groupe armé Zaïre et l'AFC M23 soutenu par le Rwanda, et d'avoir, en tant qu'autorité morale du groupe Zaïre, facilité le recrutement de combattants militants, y compris parmi des anciens de sa milice UPC. Cette dynamique inquiète d'autant plus que Thomas Lubanga a été jugé coupable du massacre de centaines de civils en Ituri dans les années 2000, lorsque son groupe s'était allié successivement à l'Ouganda puis au Rwanda.
Les responsables de la CENCO et de l'ECC qui ont rencontré Thomas Lubanga envisagent désormais de se rendre en Angola, qui assure la présidence tournante de l'Union africaine, puis au Zimbabwe, qui préside la SADC, la communauté des États d'Afrique australe, et enfin au Burundi. Au Tchad, l'un de nos correspondants, Olivier Monodji, est toujours détenu ce midi à la direction de la police judiciaire dans le quartier de Mursal, N'Djamena. Il a passé la nuit en cellule et à cette heure n'a toujours pas été formellement entendu. Aucun motif ne lui a été présenté pour justifier cette situation. Hier, à la mi-journée, Olivier Monodji avait dû suivre des policiers venus dans les locaux du journal Le Pays, dont il est le directeur de la publication, pour lui délivrer un mandat d'amener signé par le procureur de la République. Au Cameroun, les avocats sont en grève. Depuis hier, ils ont décidé de ranger leurs robes et de déserter les tribunaux pour 3 jours. Ils se disent victimes d'abus et d'agressions de la part des forces de l'ordre sans que les autorités réagissent, Polycarpe Somba.
La grève a été provoquée par la diffusion sur les réseaux sociaux début mois de mars d'une vidéo où l'on pouvait voir un avocat molesté par les forces de l'ordre. Intolérable, estiment les hommes en robe noire, d'autant que le fait venait s'ajouter à d'autres enregistrés ces derniers temps. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, Maître Mba, Eric Mba.
Ces derniers temps, de plus en plus, les avocats sont maltraités, molestés, menottés et traités de la manière la plus dégradante. Même la façon dont les avocats sont traités dans les unités de police et de gendarmerie est horrible. Et la question que nous nous posons est la suivante. Si les avocats peuvent être traités de cette manière, qu'en est-il du citoyen ordinaire ?
Entre autres actions préconisées pendant ce débrayage de 72 heures, la suspension du port de la robe noire et la non-fréquentation des cours et tribunaux sur l'étendue du territoire national.
Après ces 3 jours, nous reprendrons le travail en espérant qu'ils auront entendu notre message et qu'ils amélioreront la situation. Nous sommes très optimistes. Le ministère de la Défense m'a déjà contacté pour comprendre le problème. Je l'ai expliqué et ils ont dit d'accord, est-ce que l'on peut en parler ? Quant aux gendarmes, nous avons déjà entamé des discussions avec eux. La police, je sais qu'elle suivra également.
Au terme de ces 72 heures d'arrêt momentané de leurs activités, les avocats espèrent que cette forme de plaidoirie fera écho auprès des autorités pour une meilleure prise en compte de leur sécurité et plus d'égard à leur corps de métier. Polycarpe Somba, Yaoundé, RFI.
Afrique Midi sur RFI.
Il est 13h42 à Yaoundé, dans la deuxième partie d'Afrique Midi. Au Mozambique, le président Daniel Chapo lance un pacte pour un dialogue national inclusif, une initiative boudée par l'opposant Venancio Mondlane, qui conteste toujours les résultats des dernières élections. Et puis le premier forum des éditeurs jeunesse d'Afrique, 52 maisons d'édition venues de 16 pays, se donne rendez-vous à partir d'aujourd'hui à Lomé, au Togo. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce jeudi, le Conseil de sécurité des Nations Unies fait part de sa profonde inquiétude après la signature par les paramilitaires FSR du Soudan d'une charte en vue de former un gouvernement parallèle. Pour le Conseil, cette initiative risque d'exacerber le conflit en cours depuis presque 2 ans au Soudan, de fragmenter le pays et d'aggraver une situation humanitaire déjà catastrophique. Au Mozambique, le président Daniel Chapo et plusieurs représentants de la société civile, du monde religieux et de l'opposition ont signé hier un accord pour mettre en place un dialogue national inclusif. L'initiative qui vise à rétablir la stabilité politique et sociale au Mozambique fait suite à des mois de contestation post-électorale dans les rues du pays. Cependant, l'opposant Venancio Mondlane, qui revendique la victoire au scrutin d'octobre, n'a pas signé, Lisa Fabian.
9 signataires entouraient le président Daniel Chapo pour l'adoption de ce pacte politique très contesté. Le chef de l'État mozambicain l'a présenté comme une main tendue à tous les citoyens du pays.
Ce dialogue national inclusif est un espace dans lequel tous les Mozambicains ont leur place, y compris ceux qui se disent manifestants, qu'ils soient affiliés à un parti ou non. Nous appelons à créer et consolider un système politique pluraliste et démocratique.
politico pluralista e democratico.
L'opposant Venancio Mondlane était pourtant absent et il a rejeté cet accord. Celui-ci bénéficie en revanche du soutien de son ancien allié Albino Forquilla, le leader du parti Podemos.
La patria moçambicana, acima dos interesses particulares e dos nossos partidos políticos.
Les intérêts de la patrie mozambicaine doivent être placés au-dessus des partis politiques. Nous devons tracer un chemin vers un Mozambique uni, prospère et développé. Il faut dépasser une fois pour toutes les crises récurrentes dans le pays. On ne peut pas normaliser les troubles à l'ordre public qui entravent la libre circulation des personnes.
Au même moment, une manifestation conduite par Venancio Mondlane a été brutalement dispersée par les tirs de la police. Les partisans de l'opposant ont dénoncé une embuscade contre lui.
Et au moins 14 personnes ont été blessées, selon les observateurs locaux. Les sports du football après la Ligue des champions européenne hier soir et la victoire de Liverpool et de Mo Salah sur la pelouse du PSG 1-0. Place ce soir à la Ligue Europa, avec là encore les huitièmes de finale aller. Parmi les affiches du jour, les Turcs de Fenerbahçe reçoivent les Rangers de Glasgow. Fenerbahçe qui pourra s'appuyer sur le Marocain Youssef En-Nesyri, déjà auteur de 17 buts. En 2025, Mathis Landais.
C'est simple. En Europe, seul le Parisien Ousmane Dembélé a plus marqué que lui depuis le 1er janvier dernier. Youssef En-Nesyri a inscrit au moins un but lors de 12 des 15 matchs qu'il a disputés en 2025. Et en Ligue Europa depuis l'automne, la dynamique est bonne. Avec 6 réalisations, il est le deuxième buteur de la compétition, derrière un autre Marocain, Ayoub El Kaabi, qui évolue lui à l'Olympiakos. Youssef En-Nesyri est aussi décisif en championnat, avec 16 buts au compteur. Son entente avec le Bosnien Edin Dzeko fait des merveilles. Fenerbahçe a d'ailleurs la meilleure attaque de la division turque et occupe la deuxième place du classement, 4 points derrière le rival Galatasaray. José Mourinho, l'entraîneur du Fener, a fait du Marocain l'un des piliers de son effectif. Glasgow est prévenu, d'autant que l'attaquant de 27 ans connaît très bien la Ligue Europa. Il l'a déjà remporté 2 fois avec Séville en 2020 et en 2023.
52 éditeurs jeunesse venus de 16 pays d'Afrique se donnent rendez-vous à partir d'aujourd'hui à Lomé, au Togo, pour le premier FEJA, le Forum des éditeurs jeunesse d'Afrique, un secteur en plein boom, mais encore très fragile, Olivier Roger.
Ravakami Amna a lancé les éditions Carnet en 2021 à Madagascar. Sur la grande île, le secteur est encore neuf et donc fragile. Et pour Ravakami Amna, le FEJA, c'est d'abord l'opportunité de se créer un réseau.
Moi, par exemple, je mise énormément sur la qualité de mes titres et je suis convaincue qu'en fait, certains des livres que je publie chez Éditions Carnet peuvent parler à d'autres pays africains.
Tisser des liens entre éditeurs pour favoriser les cessions de droits et les coéditions, voilà les objectifs du FEJA. Pour Serge Gras, responsable éditorial de la maison d'édition ivoirienne Vallès, le rachat de droits de publication, c'est tout bénéfice.
Ça enrichit notre catalogue en tant qu'éditeur, parce qu'il est clair qu'un livre déjà fait, que vous rééditez, la charge de travail est réduite.
La problématique de la distribution du livre, celle de ses coûts de fabrication, seront aussi au cœur des débats. Et à cet égard, la Côte d'Ivoire fait figure de cas à part et d'exemple à suivre. Serge Gras.
Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons des compétences en matière d'illustrateurs, en matière de graphistes, en matière d'imprimerie. Toute la chaîne du livre peut se faire en Côte d'Ivoire et du coup, nos livres sont vraiment compétitifs.
Le secteur de l'édition jeunesse d'Afrique a beau décoller depuis une dizaine d'années, il demeure fragile et doit toujours convaincre qu'il n'offre pas seulement des produits de distraction, mais qu'il représente bel et bien un vecteur d'éducation.
Il est midi 48 à Lomé. Anne Kantner, les grands titres de ce jeudi 6 mars.
Nous ne sommes pas seuls. Le message de Volodymyr Zelensky aux Européens qui essaient effectivement de l'assurer de leur soutien à l'Ukraine. Conseil extraordinaire aujourd'hui à Bruxelles pour parler des moyens de développer la défense européenne et de compenser le désengagement américain. Les États-Unis qui ont aussi suspendu leur aide au développement et pour limiter les dégâts, les Nations Unies débloquent 110 millions de dollars pour répondre aux crises humanitaires les plus urgentes. Le Hamas dénonce les propos de Donald Trump hier, ses menaces de mort si le mouvement refusait de libérer immédiatement tous les otages. Pour le Hamas, cela encourage Israël à se soustraire à l'accord de trêve dont la deuxième phase doit encore être négociée. Et puis en Espagne, le parquet fait appel et réclame un nouveau procès pour Luis Rubiales, ancien patron du foot espagnol, qui n'avait été condamné qu'à une amende pour le baiser imposé à la joueuse Jenny Hermoso. L'ancien président congolais Joseph Kabila revient sur la scène médiatique. Il y a 10 jours, il rompait 10 années de silence dans un journal sud-africain et accusait son successeur, Félix Tshisekedi, d'être responsable des troubles qui secouent le pays. Avant-hier, dans la presse namibienne cette fois, il se disait disponible pour servir son pays, tandis qu'il a lancé une grande restructuration de son parti, le PPRD. Que cherche Joseph Kabila? Trésor Kibangula, analyste politique à Ebouteli, et votre invité Nicolas Sûr.
Bonjour Trésor Kibangula.
Bonjour.
Pourquoi Joseph Kabila refait-il surface maintenant? Qu'est-ce qu'il cherche selon vous?
Je pense que son timing ne doit rien au hasard. Cela faisait 6 ans qu'il a gardé silence. Il choisit de parler au moment où la RDC traverse une crise majeure. Il y a une guerre à l'Est, les climats politiques très fragiles à Kinshasa, il y a une contestation qui monte contre les pouvoirs en place. Je pense qu'il veut clairement peser sur les débats en cours et peut-être aussi sur les discussions des processus, des différents processus régionaux des médiations. Mais ce qui frappe, à mon sens, c'est qu'il s'adresse d'abord à l'extérieur. Il a parlé récemment depuis la Namibie et il a commencé par une tribune dans un média sud-africain. Donc c'est un public qui n'est pas congolais, qui me semble être le premier destinataire de ces messages.
Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut redevenir président de la République, selon vous?
En tout cas, c'est une offensive politique, même s'il reste très prudent, l'ancien président de la République. Il ne dit pas explicitement ce qu'il veut, s'il veut vraiment revenir au premier plan, mais je pense qu'il sème quand même des marqueurs avec cette réorganisation de son parti. Il a nommé un vice-président qui va venir gérer un peu les affaires à Kinshasa, donc l'ancien président de l'Assemblée nationale, Aubin Minako. Il a multiplié les attaques contre la gouvernance actuelle. Il a posé un ton très alarmiste sur l'actuelle crise. Pourtant, je pense aussi que ses retours laissent une impression un peu contrastée. Il critique ce qu'il appelle la dictature du président ou du régime actuel, mais certains attendaient aussi qu'il exprime un certain regret quand même sur la manière dont la transition de 2019 s'est déroulée, car une partie de l'opinion estime que c'est là aussi que le parti républicain des Sun City a commencé à être mis à mal.
Son parti, le PPRD, a boycotté à sa demande les dernières élections et donc n'est pas présenté dans les institutions. Est-ce que Joseph Kabila pèse encore quelque chose aujourd'hui dans le paysage politique au Congo?
En tout cas, le paysage politique congolais est très dominé par l'union sacrée de la nation, cette coalition autour du président. Même ceux qui ont participé aux élections n'ont eu que des miettes. L'Assemblée nationale, qui compte 500 sièges, est largement dominée par le camp de Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi, qui a participé à ces élections, n'a pas plus de 30 députés. Donc on n'a jamais connu dans l'histoire du pays une si écrasante domination. Donc aujourd'hui, qu'on ait participé aux élections de 2018, de 2023 ou pas, on est inexistant, en tout cas sur le paysage politique. Donc ce qui se passe à l'Est permet peut-être de rabattre les cartes, parce que tout le monde essaie d'observer ce qui va maintenant se passer et essayer de peser et rééquilibrer les rapports des forces qui étaient jusqu'à peu encore en faveur du président de la République, qui d'ailleurs avait, il y a quelques mois, commencé à parler d'un projet de réforme constitutionnelle. Et ce qui se passe à l'Est a finalement refroidi cette ambition de réformer et peut-être de négocier un prolongement du mandat.
Alors le président de la République, Félix Tshisekedi, accuse justement son prédécesseur Joseph Kabila d'être derrière le M23. Jean-Pierre Bemba, l'ancien ministre de la Défense, lui dit que Joseph Kabila est responsable des troubles dans le Maïndombé. Est-ce que c'est vrai, selon vous? Est-ce que Joseph Kabila est derrière ces opérations qui sèment le trouble en RDC?
C'est très difficile d'avoir un avis très tranché là-dessus. Récemment encore, un opposant à Kinshasa m'a laissé entendre que par rapport à ce qui se passe à l'Est, et le fait que les opposants, beaucoup se retrouvent aujourd'hui en exil de fait, c'est le cas de Moïse Katumbi, de Joseph Kabila qui peuvent plus revenir, ces gens-là peuvent peut-être se retrouver dans une sorte de sympathie hein, avec les autres compagnons d'infortune. Mais ce qui est sûr, c'est que les débats autour de ces liens supposés avec le M23 est aujourd'hui inévitable, mais il faut tout de suite dire aussi qu'en 2013, c'est sous le régime de Joseph Kabila que le M23 avait été défait. Donc, ce que ça signifie tout ça, c'est que la guerre à l'Est va devenir très vite et devient déjà un enjeu majeur de la politique, de la bataille politique qui va se jouer à Kinshasa entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et ses opposants, c'est les leaders de l'opposition, qui sont pour la plupart aujourd'hui à l'extérieur du pays. D'un côté, le président de la République veut faire du M23 et du soutien rwandais une question d'unité nationale. Il a lancé récemment des consultations, annoncé en tout cas des consultations pour créer un gouvernement d'union nationale. Et de l'autre côté, ses adversaires retournent cet argument contre lui en dénonçant aussi ses propres responsabilités dans les retours ou la résurgence de ces groupes armés.
Merci Trésor Kibangula. Cet entretien sera à retrouver sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Ces deux buildings de plus de 100 mètres de haut se détachent dans le ciel de Casablanca. Le Twin Center abrite aujourd'hui un véritable dédale d'instituts de beauté, des dizaines et des dizaines de petites boutiques où travaillent de très nombreuses ouest-africaine, plébiscitée par le secteur. Reportage Mathias Reynal.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire ?
Ici, on rabote, on lime les ongles, on fait la manucure, mais on s'occupe aussi des cheveux. C'est Madame Chiche Alami, qui est la patronne de cet institut de beauté. Elle est marocaine.
Rien ne marche au Twin, rien que les salons. Il y avait des salons avant, mais c'était pas comme ça. Il y avait des magasins magnifiques, et c'était trop cher. Hein ? Tout a changé, il y a que des salons maintenant.
Au début des années 2000, le Twin Center, c'est le lieu où la jeunesse casablancaise se bouscule pour acheter les dernières marques à la mode. Le centre commercial a perdu de sa superbe au fil des années. Le Covid-19 l'a achevé.
Presque tout le monde a changé d'activité. La première qui a fait le salon ici, elle était ivoirienne. Et une fois que ça marche, ça y est, ça commence à se multiplier.
Et Madame Chiche Alami a suivi le mouvement. La majorité de ses employés sont des femmes originaires d'Afrique subsaharienne, comme Khadija, une jeune sénégalaise.
Moi, j'ai passé mon diplôme ici. Pourquoi je suis dedans ? Parce que j'adore faire ce métier. C'est pour ça que j'ai parti pour faire une formation, avoir un diplôme international qui va me permettre là où je pars, je peux travailler.
Les Africaines de l'Ouest ont trouvé avec l'esthétique un secteur pourvoyeur d'emploi. Autre salon, changement d'ambiance. Après avoir travaillé pendant 6 ans dans le domaine au Maroc, Aïcha a décidé de devenir patronne. Ils sont une dizaine d'Africains subsahariens comme elle, mais la majorité de ceux qui dirigent les instituts de beauté au Twin Center sont marocains.
Ça fait 6 mois maintenant que j'ai fait le salon. Depuis la Côte d'Ivoire, j'avais un coin là-bas. Donc, du coup, quand je suis venue au Maroc, ma base, c'est l'esthétique. Donc, c'est sur ça que je me suis basée. Et on trouve que c'est avec ça qu'on s'en sort plus. Et les Marocains, on voit dire, ils aiment toujours se rendre belles. Ils veulent toujours être propres, tu vois. Donc, du coup, au Maroc, l'esthétique, quand tu le fais, tu ne regrettes pas.
Dans cette galerie commerciale du Twin Center, il y a énormément de concurrence entre les salons. Résultat, les prix sont tirés vers le bas et il y a parfois de la casse. 3 instituts ont fermé l'année dernière, selon Madame Chiche Alami. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Et c'est à Casablanca que se referme cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Cécile Périllard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain Nicolas Sûr. Restez avec nous, on se retrouve dans un peu plus d'une minute pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques.
Bonjour, je suis Dougal Kemp. J'ai participé au concours RFI Instrumental l'année dernière. Et ce que vous entendez en fond, c'est la musique qui m'a permis de gagner le premier prix. L'édition 2025 est lancée. C'est à votre tour de jouer.
RFI invite les monteurs et les compositeurs du monde entier à participer à la 9e édition du prix RFI Instrumental. Inscrivez-vous avant le 21 mars sur rfi-instrumental.com/fr/prix en partenariat avec l'INA, Adobe et Aprime Publishing.
Priorité santé, Caroline Paré.
Demain, pour notre dernière émission au Sénégal en Casamance, nous nous rendons à l'hôpital régional de Ziguinchor pour comprendre avec les équipes les enjeux liés à l'accès à l'oxygène médical pour les insuffisances respiratoires, les nouveau-nés ou la réanimation. L'oxygène médical, un médicament essentiel selon l'OMS.
Priorité santé
avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Les femmes représentent une importante main-d'œuvre dans l'agriculture. Pourtant, elles profitent moins des bénéfices du travail de la terre. Même si elles y ont droit au même titre que les hommes, elles se heurtent encore à des difficultés. Quels sont les obstacles à l'accès des femmes à la propriété foncière?
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.